Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, bienvenue dans un nouvel éclairage consacré à l'enseignement des sciences, l'enseignement également de la langue française, tous les enseignements, la finalité de l'école. C'était le thème d'un colloque à la Fondation Del Duca, un colloque organisé par Jean Foyer, mais également Laurent Laforgue qui est avec nous. Laurent Laforgue, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes académicien des sciences et professeur permanent à l'IHES, l'Institut des hautes études scientifiques. Et vous avez également reçu la médaille Fields en 2002 pour la démonstration. Alors, je vais lire parce que je ne maîtrise pas.
Lisez.
La démonstration de la correspondance de Langlands, je ne sais pas si je prononce bien.
C'est parfait.
Sur l'écart de fonction des courbes projectives définies sur un corps fini.
C'est bon.
Bon, alors, vous n'allez pas nous parler de ça aujourd'hui.
Oui.
On l'a bien compris, c'est sur le thème de l'école.
Oui.
Un thème polémique, quand même, à la base. Et lors de cette journée, vos collègues qui sont venus avaient des propos assez forts. Vous allez pouvoir relayer ces informations. Quel est le constat fait au niveau de l'enseignement? Est-ce qu'on a régressé? Est-ce que nous avons avancé dans les connaissances pour les élèves, les étudiants? Quelle est la situation actuelle?
Dans ce colloque, nous avions décidé de donner la parole à des personnalités très différentes, c'est-à-dire des personnalités liées à l'enseignement, donc des professeurs, des instituteurs, de grands connaisseurs de l'école. Parmi les professeurs, aussi bien des scientifiques que des littéraires, aussi bien des professeurs de collège, de lycée, d'université, aussi bien des académiciens très connus que des professeurs tout à fait obscurs. L'idée étant justement de donner la parole à des personnes dont nous estimons qu'ils sont peu entendus, qu'ils ne sont pas assez entendus.
Donc ce sont des témoignages pour l'essentiel.
Ce sont des témoignages, mais je dirais que c'est plus que des témoignages, dans la mesure où les personnes qui sont intervenues ont longuement préparé leurs exposés, d'après ce que je crois savoir. Pour certaines d'entre elles, on fait des enquêtes approfondies. Alors des enquêtes, bien sûr, pas avec les moyens d'un institut de statistique, mais des enquêtes comme on peut en faire soi-même, c'est-à-dire en contactant toutes nos connaissances. Pour un professeur, en contactant tous les professeurs avec qui il peut être en contact dans sa propre université, dans d'autres universités, en recueillant les témoignages de ses professeurs, en faisant des analyses de copies. Dans plusieurs des interventions, il a également été question des manuels. L'instituteur Marc Lebris, l'auteur du livre « Les bons enfants ne sauront pas lire ni compter », a consacré son intervention à la comparaison de plusieurs manuels d'écriture-lecture, donc la vieille méthode Bocher, dont on sait que depuis très longtemps, elle n'est plus en vigueur, même interdite de fait dans l'éducation nationale, mais qui est achetée chaque année par beaucoup de parents, par 100 000 parents chaque année. Donc voilà, la vieille méthode Bocher, et puis un certain nombre de méthodes qui se sont succédées depuis les années 70, et celles qu'on trouve actuellement dans la majorité des classes, de comparer ces manuels. De même, Madame Cloarec, professeure d'anglais de collège et lycée, a également consacré la moitié de son intervention à comparer des manuels d'anglais des années 70 et d'aujourd'hui, des manuels actuellement en vigueur. L'autre moitié de son intervention était consacrée au problème insurmontable que pose aux professeurs d'anglais la méconnaissance de la grammaire française par la plupart des élèves. Donc nous avons eu des exposés qui étaient différents les uns des autres, faits par des personnalités très différentes. Et une chose absolument remarquable qui est apparue à la fin de la journée, c'est que sans que nous l'ayons cherché, il est apparu une grande cohérence entre les différents exposés.
Alors justement, donc maintenant nous allons pouvoir aborder plus profondément cette question. Alors pour vous, il est clair qu'il y a une dégradation de l'enseignement, des connaissances. Quel est le constat actuel pour les élèves d'école primaire jusqu'à l'université?
Oui, donc vous avez entièrement raison de commencer par l'école primaire. Bien sûr, tous les maillons de l'enseignement sont importants et je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a pas de maillon faible, ou plutôt tous les maillons sont faibles. En particulier, je m'inscris en faux contre la formule qu'on lit parfois, le collège maillon faible du système. Non, tous les maillons sont faibles, mais évidemment, le plus important de tous les maillons et celui sur lequel tous les autres sont fondés, c'est l'école primaire.
qu'est-ce qui ne va pas, en fait, dès le départ, ou qu'est-ce qui pourrait être amélioré, en tout cas?
Là, il y a un constat qu'on peut faire. Donc, à l'issue de l'école primaire, beaucoup des élèves ne maîtrisent absolument pas les savoirs fondamentaux, que sont d'abord la connaissance de la langue, ça veut dire l'aisance à écrire et à lire, la connaissance structurée de la langue, qui est la grammaire, également le calcul. Donc là, je peux citer des chiffres,
des exemples
de ce qu'on peut constater à l'issue du primaire. Donc ces chiffres sont tirés des évaluations d'entrée en sixième qui sont pratiquées chaque année. Donc pour ceux que je vais citer, c'est les dernières évaluations de septembre de 2005. Il s'agit de cette année. Donc exemple de questions posées. Tous les élèves entrant en sixième en France, en calcul mental, combien valent 60 divisé par 4 on arrive à 60% d'échecs. Quel nombre faut-il ajouter à 25 pour trouver 100? On arrive à 28% d'échecs. Écrire 627 000 en chiffres, on arrive à 25% d'échecs. En calcul posé, c'est-à-dire poser la multiplication 27,5 fois 23, là on arrive à 70% d'échecs.
Et en posant ces mêmes questions 10 ans auparavant, on n'aurait pas eu les mêmes résultats?
Non, c'est-à-dire que l'organisme qui se charge de ces évaluations, qui s'appelle la Direction de l'évaluation et de la prospective, existe maintenant depuis presque 15 ans, pratique ces évaluations chaque année. Alors on constate que d'une année sur l'autre, les questions posées par cette direction du ministère évoluent, elles sont de plus en plus faciles. Je m'attaque à cette institution dont j'estime que délibérément, elle cherche à masquer la réalité de la situation.
Vous voulez dire qu'en fait, même dans les évaluations, on baisse le niveau pour
Non seulement je dis ça, mais je connais personnellement une dame qui est ancienne professeure de mathématiques, qui, à la fin de sa carrière, a travaillé pendant plusieurs années dans cette direction, la direction de l'évaluation et de la prospective, et qui maintenant est à la retraite, et étant à la retraite, est à l'abri des représailles. Et cette dame témoigne de ce qu'elle a vu quand elle était dans cette direction du ministère, à savoir la manipulation délibérée des statistiques. C'est-à-dire comment on se réunissait pour choisir les questions en fonction des résultats qu'on voulait obtenir. Voilà. Là, je viens de parler des mathématiques, enfin du calcul le plus élémentaire.
Une
chose encore plus importante, c'est la maîtrise de la langue française. Alors, suivant même les chiffres officiels, les chiffres du ministère, on dira que, suivant le critère qu'on retient, 15% ou 20% ou 25% ou 30% des élèves qui rentrent en sixième ne maîtrisent pas la lecture et l'écriture. Et même pour les autres, ceux qui la maîtrisent davantage, malgré tout, on observe des carences absolument étonnantes en grammaire, en conjugaison, en orthographe. Alors aujourd'hui, quelle est la proportion d'élèves de collège qui maîtrisent l'orthographe au sens de ne pas faire, disons, une faute, de faire moins d'une faute par phrase? Cette proportion est tout à fait minime.
Mais est-ce qu'il y a eu un moment où c'était une école primaire idéale? Puisse dire que c'est une dégradation, ça veut dire qu'il y a eu avant quelque chose de beaucoup mieux. Vous êtes partisan de ces personnes qui disent que c'était mieux avant?
C'est-à-dire, je fais partie des personnes qui s'autorisent à faire des comparaisons. Pour moi, c'est intéressant de faire des comparaisons avec différentes époques du passé, et je ne m'interdis pas de penser a priori qu'effectivement, il n'y a pas nécessairement progrès. Le progrès n'est pas une fatalité. On peut réaliser des progrès. Parfois, il peut aussi se produire des phénomènes de régression. Donc, pour ce qui est de l'école primaire, là, je suis vraiment très affirmatif. C'est-à-dire que je pense que sous la 3e et la 4e République, il y a encore jusqu'à il y a 50 ans, peut-être 40 ans, jusqu'aux années 60, la France a eu une école primaire tout à fait exceptionnelle. Je pense que c'était le maillon le plus fort du système éducatif français. Je le vois rétrospectivement en songeant à mes propres grands-parents, dont aucun n'avait connu autre chose que l'école primaire, dont 3 sur 4 avaient commencé à travailler à 12 ans, que j'ai connu bien sûr 50 ans ou 60 ans après qu'ils aient quitté l'école. Quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent, que je les voyais, que je les voyais écrire, que je les voyais parler, bien sûr, tout ce qu'ils disaient me paraissait naturel. Mais aujourd'hui, quand j'y repense, je suis très impressionné par la qualité de leur français. Je conservais beaucoup de lettres de mes grands-parents, et absolument sans faute d'orthographe, sans faute de grammaire, sans faute de conjugaison. Donc chez des personnes issues de milieux populaires et ayant quitté l'école à 12 ans.
Mais alors comment on explique ce glissement?
C'est plus qu'un glissement. Aujourd'hui, on assiste à un effondrement de pans entiers de notre système éducatif, et particulièrement de l'école primaire. Beaucoup de professeurs et d'instituteurs disent que la dégradation de notre système éducatif remonte à de nombreuses années, elle commence il y a 30 ou 40 ans, mais au fil des ans, elle s'est progressivement accélérée, Et dans les dernières années, la dégradation est devenue extrêmement rapide, à tel point que les professeurs constatent une évolution dans le mauvais sens d'une année sur l'autre.
Mais alors, voilà, on a bien compris, une dégradation, effondrement, mais à quoi c'est dû? Parce que finalement, l'éducation nationale n'a pas pour intérêt de baisser le niveau de ses élèves les plus jeunes.
Si vous voulez, par exemple, à l'école primaire, on a négligé simplement les savoirs fondamentaux. Donc tout à fait concrètement, par exemple, les horaires de français de l'école primaire, entre les années 60 et aujourd'hui, ont diminué de plus d'un tiers. Hein, donc je donne un exemple, en cours préparatoire, jusqu'à la réforme de 1969, il y avait 15 heures de français par semaine. Aujourd'hui, selon les programmes officiels, c'est 9 heures de français par semaine et même 6 heures dans les écoles où on apprend une langue régionale. Et de même, en cours élémentaire, en cours moyen, globalement sur le primaire, la diminution des horaires est de plus du tiers. Donc ça, c'est la diminution quantitative des enseignements fondamentaux. Mais il y a quelque chose de peut-être de plus important encore, c'est le contenu même des enseignements et les méthodes employées pour enseigner. Hein, c'est-à-dire que l'enseignement des écoles primaires...
Mais on est toujours dans un souci de bien faire, c'est jamais
dans le souci. Enfin, les intentions affichées sont toujours très bonnes, très généreuses, etc. Mais les résultats sont absolument catastrophiques. Ça fait longtemps qu'on aurait pu s'en apercevoir. Ça fait longtemps qu'un certain nombre de personnes tirent la sonnette d'alarme. Et la chose vraiment stupéfiante pour moi, c'est qu'on a continué d'aller dans la même direction et les choses s'empirant constamment. Disons, l'enseignement primaire qu'on a eu en France, qui a été très bon, était fondé sur les éléments. C'est-à-dire qu'on commençait par apprendre des choses simples et puis peu à peu, on allait vers des choses plus élaborées. Pour l'apprentissage de l'écriture-lecture, on commençait par apprendre à lire et surtout à écrire les lettres. Hein, puis ensuite à former les syllabes, les mots. De même, quand on regarde les manuels de grammaire d'il y a 40 ans, d'il y a 50 ans, on voit qu'on parle d'abord des mots, puis des phrases, donc de la fonction des mots dans la phrase, de la nature des mots, et puis peu à peu, on va vers des choses plus compliquées qui sont donc la phrase avec des subordonnées, peut-être, et puis les paragraphes, les textes entiers. Quand vous regardez dans des manuels d'aujourd'hui, l'ordre est complètement inversé. C'est-à-dire qu'on vous parle d'abord du texte, on vous fait remarquer qu'il y a différents types de textes, des textes qui racontent des histoires, des textes, des recettes de cuisine, etc. Et puis alors, une fois qu'on a passé plusieurs mois à dire et répéter, c'est le slogan qui est employé, mais en fait, de dire qu'il y a des textes qui sont des recettes de cuisine, des textes qui racontent des histoires, des textes qui font ceci, des textes qui font cela, personnellement, je ne trouve même pas que ça donne beaucoup de sens. Quand on regarde même, encore une fois, dans les manuels, un tel qui sont rédigés, on voit qu'on commence par le complexe et puis éventuellement, en fin d'année, peu à peu, on va aller vers des choses plus simples. Parce que, vous avez prononcé le mot « global », en effet, depuis très longtemps en France, il y a cette polémique qui existe, qui est très importante, hein, sur l'emploi qui a été fait des méthodes de soi-disant apprentissage de la lecture globale ou semi-globale, et les méthodes alphabétiques syllabiques qui s'y opposent. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que l'approche globale de l'enseignement ne concerne, au primaire, au collège, au lycée, ne concerne pas seulement l'apprentissage de la lecture, il concerne tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la logique de l'enseignement est globale. Hein, c'est-à-dire que de manière systématique, on va confronter les enfants ou les collégiens à des textes, des problèmes complexes, en leur demandant de se débrouiller avec, de se comporter devant ces problèmes complexes comme de petits chercheurs. Hein, donc par exemple, à l'école primaire, on va demander aux enfants de se comporter comme des petits chercheurs de grammaire.
Mais c'est pour les valoriser, c'est pour les
mettre... soi-disant les rendre autonomes.
Voilà, oui, hein,
mais en fait, c'est extrêmement difficile. Moi qui suis un chercheur professionnel, nous tous ici à l'Académie des sciences par exemple, qui sommes des chercheurs professionnels, nous savons que la recherche est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est beaucoup plus difficile de demander à des enfants de se transformer en chercheurs que de leur donner des éléments, de les leur faire acquérir, de leur faire acquérir un certain nombre d'automatismes à partir desquels ensuite, plus tard, ils pourront peu à peu acquérir des connaissances de plus en plus élaborées et puis un jour voler de leurs propres ailes. Hein, donc l'ordre de l'enseignement a été complètement inversé. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où même à l'école maternelle, aujourd'hui, il est question, dans les textes officiels, de faire des ateliers philosophiques à l'école maternelle.
Le mot philosophique est employé, mais bien sûr, on peut parler de Descartes.
Il y a un mois, j'ai eu un débat avec M. Mérieux, qui est, à mon avis, l'un des grands responsables de la catastrophe actuelle. Et Monsieur Mérieux, qui il y a 20 ans préconisait de faire apprendre à lire et à écrire aux enfants des classes populaires, les faisant lire des manuels d'utilisation, des notices d'utilisation d'objets électroménagers. Donc Monsieur Mérieux, il y a 20 ans, préconisait ça. Dans le débat que j'ai eu avec lui il y a un mois, il m'a cité comme un exemple extraordinaire de quelque chose qu'il faudrait faire, généraliser partout, des classes où on apprend à lire et à écrire aux enfants, les faisant lire des extraits d'Eschyle et d'Homère. Hein, donc c'est la même personne qui préconisait il y a 20 ans les notices d'utilisation d'appareils électroménagers et qui aujourd'hui préconise Eschyle et Homère. Donc voilà, on va faire apprendre, on va essayer d'apprendre à lire et à écrire aux enfants dans Eschyle et dans Homère. Et puis quand on arrive à l'université, eh bien on en est réduit, comme c'est le cas dans beaucoup d'universités littéraires aujourd'hui, à faire des modules de remise à niveau en orthographe et grammaire.
Alors voilà, donc voilà. On va avancer, on n'est plus en primaire, au collège et au lycée. L'enseignement va dépendre de cet enseignement fondamental de l'école primaire.
Ouais.
Alors comment, vous avez eu donc les témoignages de ces professeurs au collège, lycée, université. Comment se placent-ils eux au départ? Donc ils doivent refaire une remise à niveau? Est-ce qu'ils doivent baisser le niveau de leurs cours, et à quoi ils sont confrontés, ces professeurs?
Ben, disons que chez beaucoup de professeurs et d'instituteurs qui m'écrivent, il y a c'est la révolte et c'est l'impuissance face à une situation qui les dépasse. Donc, par exemple, les professeurs de lettres ont plus de liberté que les professeurs de sciences. C'est-à-dire que, évidemment, le programme en lettres est nécessairement plus flou. Par nature, il laisse plus de liberté qu'un programme de sciences.
Vous parlez donc, pour le collège, le lycée,
Je parle pour tout. Hein. Alors, par exemple, certains professeurs de lettres de collège ou de lycée, constatant que leurs élèves ne connaissent pas la grammaire, ou que la plupart de leurs élèves ne connaissent pas la grammaire, décident de combler les lacunes en grammaire de leurs élèves. Et ils le peuvent. Donc, un certain nombre de professeurs font ça. Je trouve ça, enfin, pour ceux qui m'ont écrit, je les ai félicités, encouragés, même de mon point de vue de mathématicien. Hein, parce que l'acquisition de la grammaire est très importante dans la perspective des mathématiques.
Phrases, voilà. Structurer ses phrases,
enfin,
servir
parce que ça donne la possibilité, ensuite, de former des phrases abstraites. Si on ne connaît pas la grammaire, si on n'a pas de connaissances structurées de la langue, on n'est pas capable de former des phrases abstraites ni de les comprendre. Hein? Un certain nombre de professeurs donc, prennent des libertés avec le programme pour réenseigner les connaissances les plus fondamentales, particulièrement les connaissances de base de la langue, hein, quand ils constatent que leurs élèves ne les ont pas. Pour les professeurs de sciences, la situation est plus difficile. Il y a un programme qui existe, que normalement il faut suivre impérativement. Et quand certains professeurs se hasardent à sortir du programme pour réenseigner des bases qui ne sont pas acquises, ils s'exposent aux réactions vives d'une partie des parents d'élèves qui ne veulent pas voir que les bases font défaut, qui ne veulent pas l'admettre. Et ces parents d'élèves peuvent facilement s'adresser à l'administration et l'administration se retourner contre les professeurs. J'ai même l'exemple d'un professeur de mathématiques qui, s'apercevant que ses élèves en seconde n'étaient pas capables de faire la somme de deux fractions, hein, ce qui maintenant est courant, hein, oui. Jusqu'à l'université.
C'est courant de ne pas pouvoir faire des fractions à l'université.
Oui, c'est un phénomène qui m'est signalé par beaucoup de professeurs de lycée, d'IUT, de BTS, d'université, même en filière scientifique. Hein, donc un professeur de seconde, constatant que la plupart de ses élèves n'étaient pas capables de faire la somme de deux fractions, a décidé de commencer par ça. Donc, en oubliant le programme. Les parents ont protesté parce qu'il faut absolument suivre le programme dans la perspective du baccalauréat, du passage à la classe supérieure, etc. etc. Et ce professeur, dont le cas m'a été signalé, a été suspendu par l'administration.
Il est confronté à un paradoxe, c'est-à-dire qu'il doit relever le niveau de ses élèves et en même temps suivre le programme
Donc je suis extrêmement critique, même assez catastrophé par les programmes actuels, par les manuels actuels, donc particulièrement dans les matières scientifiques, dont je peux juger, mais également en français, les programmes et les manuels actuels sont tout aussi catastrophiques. Mais donc, en mathématiques, par exemple, il est important de dire, parce que la plupart des gens ne le savent pas et ne peuvent pas s'en rendre compte, que les programmes actuels et les manuels actuels sont profondément pervertis, y compris dans la fameuse filière
S.
Pervertis, c'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde les programmes et les manuels de la filière S, on voit qu'ils font appel à un certain nombre de mots savants, que la plupart des gens ne comprennent pas, le dérivé, intégrale, etc. Donc, les gens ne comprenant pas ces mots sont impressionnés par ces mots et s'imaginent que ce sont des choses très savantes, très sophistiquées, très élaborées. Mais la vérité, c'est que ces mots savants, aujourd'hui, ne sont plus insérés dans des raisonnements qu'il faudrait faire. Par exemple, j'ai eu un témoignage, j'ai eu beaucoup de témoignages mais, sur ce sujet.
Parce que vous avez enquêté sur le sujet, donc c'est pour ça que vous avez reçu...
Oui, puis là, les gens m'écrivent beaucoup, m'envoient beaucoup de témoignages spontanés. Donc, un témoignage qui m'avait particulièrement frappé est celui d'un professeur de mathématiques de lycée qui me disait, dans mon lycée, nous obtenons d'excellents résultats au baccalauréat, nous avons quasiment 100% de reçus, particulièrement dans la filière S, et voilà comment nous faisons. Nous apprenons à nos élèves à reconnaître un certain nombre de questions types, et quand ils reconnaissent ces questions, à répondre de manière automatique. Autrement dit, nous conditionnons nos élèves. Et les actuels problèmes de la filière S, les actuelles questions qui sont posées au baccalauréat, sont devenus tellement stéréotypés que ceci permet d'obtenir au moins la moyenne et même souvent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de raisonner, il ne s'agit plus de réfléchir, il ne s'agit plus de rédiger, mais on répond de manière automatique, comme un automate, vraiment, à certaines questions, et ça suffit. Il m'a dit, c'est du par cœur, qui est même absolument contraire aux objectifs qui ont été affichés, parce que l'éducation
là,
a été complètement transformée dans les dernières décennies au nom d'un certain nombre de slogans. Et l'un de ces slogans, ça a été de rendre l'enseignement plus intelligent, de rendre les élèves autonomes, et on arrive exactement aux résultats opposés, particulièrement en s'agissant de ces programmes de mathématiques actuels de la filière S, avec leurs mots savants. Moi, je dis que en réalité, ils sont d'un niveau inférieur à l'ancien certificat d'études primaires qu'on passait à 12 ans ou 13 ans ou 14 ans. Pourquoi ? Parce que les problèmes d'arithmétique très élémentaires de l'ancien certificat d'études primaires proposaient un énoncé condensé. Bon, il y avait quelques phrases pour présenter le problème, puis ensuite une question qui était posée. Et cette question demandait, pour sa résolution, un raisonnement qu'il fallait développer soi-même en plusieurs étapes. Donc, il fallait soi-même découvrir ces étapes, puis ensuite les rédiger. Autrement dit, pour répondre à cette question, il fallait raconter une petite histoire,
une petite histoire mathématique.
Voilà, une démonstration, un raisonnement, quelque chose qui ressemble beaucoup à une rédaction en français. Un raisonnement avec un plan, et puis qu'on développe en écrivant des phrases. Alors, on faisait ça à propos de problèmes extrêmement concrets, mais, pour dire la vérité, ce genre de problème qui était posé ressemble infiniment plus à ce que sont les vraies mathématiques, les mathématiques vivantes, les mathématiques qu'on pratique comme chercheurs, les mathématiques des professionnels, que les actuels problèmes et programmes et manuels de la filière S des lycées.
Parce que si on se penche un peu plus sur justement cette filière S, les scientifiques, quand même, dans les cours, les connaissances ont évolué, puisqu'il y a 50 ans, on n'avait pas ces calculatrices graphiques qui nous permettaient de faire ces belles courbes. Là, quand même, dans ce domaine-là, c'est quand même tiré vers le haut.
Non,
en terminale, maintenant, et en terminale il y a 50 ans,
tout ceci est une illusion complète. Effectivement, on emploie des mots plus savants, mais l'important, ce n'est pas d'employer des mots savants. L'important, c'est de raisonner, d'apprendre à raisonner, d'apprendre à rédiger. Le simple fait, par exemple, de répondre à une question qui est posée, de faire un raisonnement pour répondre à cette question, donc de se rendre compte qu'il va y avoir plusieurs étapes, d'ordonner ces étapes, de faire un plan, de rédiger, ça, c'est quelque chose qui est d'usage universel, ensuite, pour tout type de connaissances qu'on peut être amené à acquérir. Quelque chose qui est extrêmement utile, aussi bien dans la perspective de continuer des études scientifiques, littéraires, que de rentrer dans la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle, le genre de travail qu'on devra faire, ça ne consistera jamais à avoir un problème où toutes les réponses sont prémâchées. Aujourd'hui, les problèmes de baccalauréat, que ce soit dans la filière S ou dans les autres, c'est des problèmes très longs, avec un grand nombre de questions, et la réponse à chaque question est complètement immédiate. Bien, dans la réalité de la vie intellectuelle, bien sûr, les choses sont complètement différentes. Dans la réalité de la vie professionnelle aussi. Je répète que l'esprit de l'ancien certificat d'études était bien préférable.
Est-ce qu'à l'université, pareil, selon vous, les programmes ont baissé ou est-ce que là, en revanche, le niveau est resté stable, ce qui fait qu'il y a quand même un passage à vide entre le bac et le début de l'université?
Alors, à l'université, il faut différencier suivant les enseignements.
Les filières,
par exemple, en mathématiques, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a trois populations d'étudiants complètement disjointes. C'est-à-dire, premièrement, la population d'étudiants qui se retrouve en DUG et qui disparaît après. Deuxièmement, la population d'étudiants au niveau licence-maîtrise, qui sont pour la plupart des élèves venus des classes préparatoires aux grandes écoles et ayant échoué au concours. Et puis troisièmement, la population d'étudiants au niveau du doctorat, qui en mathématiques dans les universités parisiennes est composée quasiment exclusivement de normaliens, peut-être de quelques polytechniciens, de quelques autres élèves de quelques très grandes écoles, et point. Ce ne sont pas les mêmes étudiants. Hein. Alors pour ce qui est de ceux qui arrivent en DUG, hein, donc qui sont des élèves qui n'ont que leur baccalauréat, qui ne sont pas les meilleurs et qui de toute façon ont reçu un enseignement comme les autres, enfin comme tout le monde, de très déficient, très perverti comme j'ai dit, eh bien avec ces étudiants, il est impossible de faire un enseignement supérieur digne de ce nom.
Effectivement, je crois qu'il y a 50% qui ne passent pas en première, deuxième
mais
année.
Même, mais même, on a beaucoup a adapté, les universités subissent des pressions hein, pour que tout de même, il y ait une proportion importante d'élèves qui réussissent leurs examens, etc. Ce sont des pressions que les universités subissent de la part de leurs autorités de tutelle et également des pressions internes à l'université.
Les professeurs à l'université sont quand même beaucoup plus libres que les professeurs de lycée.
Ils sont libres, sauf qu'on leur explique, par exemple, on leur dit la chose suivante, c'est que si vous notez comme vous estimez devoir noter, très peu d'étudiants resteront et ça fera moins de postes pour l'université. C'est aussi simple que ça. Hein, donc la pression, elle s'exerce de cette façon-là. Les échos que j'ai particulièrement de l'enseignement de mathématiques en DUG sont tout à fait effrayants. C'est-à-dire que je connais des universités parmi les meilleures universités de France, comme on dit, où aujourd'hui en DUG, la notion en DUG scientifique, en DUG de mathématiques physiques, la notion de démonstration est hors programme. Hein, c'est-à-dire que les élèves arrivant à l'université, ayant été habitués au collège, au lycée, à ne jamais démontrer, n'ayant aucune pratique de la démonstration, n'ayant aucune pratique du raisonnement, ayant été habitués à penser et à pratiquer les mathématiques comme un apprentissage d'automatisme. Que les élèves arrivent à la fin du lycée, et pour eux les mathématiques, ça consiste à apprendre des procédures automatiques, et à les répéter. Eh bien, les élèves qui arrivent dans l'enseignement supérieur, qui ne connaissent que cet aspect-là, pour qui les mathématiques ne sont pas autre chose, sont incapables de faire les mathématiques autrement. Ce à quoi on est réduit à l'université, c'est de leur enseigner les mathématiques de la même façon. Donc on va leur apprendre d'autres automatismes, mais de toute façon, on ne va pas leur apprendre autre chose que des automatismes. J'ai des témoignages tout à fait effrayants. Donc l'incapacité pour la plupart des étudiants donc de former, ne serait-ce que de former un énoncé mathématique. Hein, parce que c'est un énoncé mathématique, c'est avec une phrase abstraite, utilisant des mots un peu savants, des mots qui n'appartiennent pas au langage courant. Et pour former une telle phrase, ou pour comprendre une telle phrase, par exemple dans un cours, dans un livre, il faut avoir une connaissance structurée de la langue. La première chose qu'il faut maîtriser, c'est la grammaire de sa propre langue. Or, cette chose-là, pour la plupart des étudiants d'université, n'est pas maîtrisée du tout, et même elle est complètement inconnue.
Oui, hein. Vous disiez que selon les filières, c'était quand même un peu différent.
Oui, j'ai l'impression, donc simplement d'après les témoignages que je reçois, hein, qui sont ma source d'information, que, par exemple, les filières de physique sont parmi les plus sinistrées. Enfin, en tout cas, je constate que les professeurs de physique qui m'écrivent, qui sont très nombreux, donnent souvent les témoignages les plus impressionnants. Et c'est le cas, par exemple, puisque dans notre colloque de la semaine dernière, le colloque du 17 mai à la Fondation Del Duca, hein, du témoignage qui a été donné par une dame, professeure de physique à l'université, qui a à la fois donné son propre témoignage et cité un certain nombre de témoignages qu'elle a reçus, qu'elle a recueillis auprès de tous ses contacts habituels, donc physiciens avec qui elle est elle collabore dans sa recherche, problèmes de français, problèmes de mathématiques, problèmes de comportement, problèmes de tout. Donc ce qui est extrêmement frappant dans ce qu'elle dit, c'est que beaucoup des problèmes qu'elle et ses collègues rencontrent pour enseigner la physique à l'université sont causés par des lacunes qui remontent à l'école primaire. Des lacunes de français, des lacunes de mathématiques vraiment les plus élémentaires, et puis aussi, ce qui est très important, des lacunes de comportement. Hein, c'est-à-dire que les élèves ne sont pas capables aujourd'hui, enfin beaucoup d'étudiants, simplement de rester silencieux quand le professeur parle.
Ça s'appelle encore autre chose, c'est un problème de discipline.
Ben, c'est un problème de discipline, et en même temps, ça, je pense, comme les connaissances de base, comme l'apprentissage de l'écriture et de la lecture, comme l'apprentissage du calcul, ce sont des choses qui s'acquièrent à l'école primaire, et qui, si elles ne sont pas acquises à l'école primaire, ne s'apprennent plus. Le genre de discipline, d'exigence par rapport à soi-même, qu'on peut acquérir à l'école, ainsi l'école le demande, et le problème, c'est que l'école ne le demande plus. Enfin, ça dépend bien sûr des instituteurs, mais en tout cas l'institution éducative, c'est-à-dire les IUFM, les inspecteurs, le discours tenu par les instances officielles, donc tout cela, depuis plusieurs décennies, a constamment tendu à négliger, quand ce n'est pas à proscrire, ces apprentissages fondamentaux.
Mais alors, Laurent Laforgue, est-ce que vous êtes la majorité des professeurs, des enseignants à penser ce que vous dites? Vous avez un discours assez alarmiste quand même,
ouais,
hein, on peut le dire.
Très alarmiste.
Vous êtes la majorité, parce que on l'entend beaucoup dans les médias, le fait qu'effectivement, la méthode globale, c'est pas forcément la meilleure chose, qu'on revient à la méthode syllabique, qu'effectivement, on voit bien que les élèves ont un niveau qui baisse, on n'est pas encore catastrophé, mais à ce point-là, ce que vous dites, puisque c'est quand même un tableau assez noir, vous êtes la majorité des professeurs à le penser?
Je ne sais absolument pas.
Comment vous expliquez à ce moment-là que vous ayez un mur devant vous, comme vous pouvez
Le mur, il ne vient pas des professeurs et des instituteurs eux-mêmes. Je voudrais que les professeurs et les instituteurs aient la possibilité de s'exprimer beaucoup plus qu'ils ne l'ont. L'un des buts de notre colloque, c'était justement de donner la parole à des professeurs et des instituteurs, y compris des personnes qui n'étaient jamais intervenues publiquement sur le sujet de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes que nous avons invitées dans ce colloque qui étaient simplement des personnes qui m'avaient écrit, qui m'avait envoyé des témoignages que j'avais trouvés particulièrement intéressants, c'est-à-dire qui, pour moi, m'apportaient des informations complètement nouvelles. Et j'ai trouvé que c'était intéressant qu'il se fasse, ou nous avons trouvé, que c'était intéressant qu'il se fasse entendre publiquement. Par exemple, un cas particulièrement frappant, c'est celui du musicien Pierre Farago, qui explique que la formation des professeurs de conservatoire subit depuis un certain temps, mais actuellement ça prend des proportions apparemment effrayantes, une dégradation aussi grave que ce qu'on peut constater dans les IUFM. C'est-à-dire que triomphent les mêmes doctrines et l'enseignement de la musique est peu à peu supplanté par celui des sciences de l'éducation. Donc quand ce musicien m'a écrit ça, m'a envoyé son témoignage, m'a simplement décrit ce que lui-même avait constaté dans les conservatoires où il peut travailler, pour moi c'était une surprise totale. Je n'avais jamais imaginé ça. Et je ne suis pas musicien moi-même, je pensais que l'enseignement de la musique, c'est donc cette chose extrêmement précieuse dans la culture, que ça puisse subir aussi une dégradation. Donc pour moi, c'était une surprise totale. Donc j'ai pensé qu'il était important que cela soit dit publiquement. Je suis sûr que lors du colloque, pour la plupart des personnes qui étaient dans la salle, c'était également une information complètement nouvelle. Donc je suis partisan que donc ces gens-là qui sont de simples professeurs, de simples instituteurs, qui ne font pas partie de la hiérarchie, qui ne font partie d'aucune hiérarchie, ces gens-là simplement disent les choses telles qu'ils les voient. Malgré tout, j'appartiens à un milieu intellectuel, donc je suis en contact avec, en dehors même des témoignages que je reçois. Simplement, je regarde autour de moi, j'entends ce que disent chaque jour les professeurs d'université avec qui je suis en contact quotidien. Je voudrais simplement que ce qu'ils disent en privé tous les jours paraissent dans le débat public. Je pense que la situation de l'éducation en France est extrêmement grave, mais la première chose nécessaire pour qu'on puisse songer à un début de redressement, c'est qu'il y ait une prise de conscience. Et pour ça, il faut entendre les instituteurs et les professeurs qui sont en fait les plus à même de juger la réalité de la situation, et puis, pour beaucoup d'entre eux, de songer aux moyens d'un redressement.
Alors justement, pour terminer sur cette émission, donc c'est un constat qui est dressé, quelles sont les propositions de ces professeurs ou de vous-même?
Donc c'est pas à moi de faire des propositions. Enfin bon, j'en fais pas plus tard qu'hier, j'ai fait une conférence où j'ai fait des propositions.
Parce que dresser un constat et dire rien ne va plus, d'accord, mais c'est vrai que derrière on attend quand même qu'il y ait une argumentation, des propositions quand même
La première chose à faire, c'est de s'appuyer sur les associations de professeurs et d'instituteurs qui se sont constituées depuis des années et qui, justement, premièrement dénoncent la situation actuelle et deuxièmement font des propositions. Bon. Donc, je vais vous donner un exemple pour l'école primaire, puisque ce sujet est particulièrement important. De toute façon, tout le système éducatif repose sur l'école primaire. Donc, le redressement de l'école primaire est une priorité absolue.
On peut redresser l'école primaire?
Il faut commencer de la manière la plus concrète possible et, à mon avis, commencer par la base, commencer au niveau des classes. Non pas par des directives officielles, mais de manière très concrète dans certaines classes. Donc je pense par exemple à l'une de ces associations, donc le GRIP, le groupe de réflexion interdisciplinaire sur les programmes, donc dirigé par Jean-Pierre Demailly, qui est un membre correspondant de l'Académie des sciences. Et donc cette association, depuis des années, s'est donnée pour but de faire des propositions pour l'école. Et ils ont conçu un projet de réhabilitation du primaire qui s'appelle SLEC, savoir lire, écrire, compter, calculer, avec des programmes réhabilités, c'est-à-dire priorité rendue premièrement au français, deuxièmement au calcul, Et enseignement rigoureux, méthode rigoureuse, apprentissage de l'écriture, lecture, en commençant par les lettres, puis les syllabes, etc. Et puis, grammaire, conjugaison, texte à apprendre par cœur, histoire chronologique, géographie en demandant d'apprendre un certain nombre d'éléments physiques, par exemple la géographie de la France ou de la géographie de l'Europe.
C'est reprendre les manuels des années 50 ?
Les manuels des années 50 peuvent être très utiles. Bon, je connais des gens qui sont en train d'en rééditer un certain nombre parce que les parents sont très demandeurs. Mais ce que nous voudrions retrouver, c'est simplement l'état d'esprit, l'esprit, le principe fondamental ou les principes fondamentaux sur lesquels était fondée l'école primaire. C'est-à-dire que l'école primaire, et enfin l'ensemble du système éducatif, était fondée sur la valeur accordée au savoir, la valeur de l'instruction. L'une des grandes causes de la destruction de l'école dans ces dernières décennies, c'est qu'on a demandé à l'école autre chose que d'instruire. On lui a demandé de transformer la société, de contribuer à diminuer les inégalités sociales, de faire que les enfants apprennent à vivre ensemble, etc. Depuis quelques années, il y a un nouveau discours qui est apparu sur la citoyenneté. On parle tout de la citoyenneté tout le temps. Non, l'école est faite pour instruire, point. Et si elle instruit, elle a beaucoup de bénéfices induits. Elle permet, par exemple, l'ascension sociale de beaucoup. Ça a été le cas en France pendant très longtemps. On sait qu'aujourd'hui, l'ascenseur social par l'école est complètement bloqué. On a voulu une école plus égalitaire, mais le résultat auquel on arrive est exactement le contraire de ce qu'on voulait. De même, on a voulu une école avec un enseignement intelligent, entre guillemets, donc qui rende les élèves autonomes, etc., etc. Mais le résultat, là aussi, est complètement contraire à l'objectif affiché. C'est-à-dire que les élèves arrivent dans le supérieur, ils ne sont pas autonomes. Ils arrivent sur le marché du travail, ils ne sont pas autonomes. Ce que nous demandons, donc, c'est une école primaire et de manière plus générale un système éducatif, un collège, un lycée, une université, recentré sur sa raison d'être, c'est-à-dire instruire, transmettre des connaissances, et à partir du moment où on respecte ce principe, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place naturellement. Par exemple, pour ce qui est des programmes, d'avoir des programmes progressifs. C'est-à-dire que chaque année, on s'appuie sur ce qui a été fait dans l'année précédente. Il y a une progression, il y a une logique, il y a une cohérence. Aujourd'hui, quand vous regardez les programmes de l'ensemble de l'école primaire et jusqu'à la fin du collège, il n'y a quasiment pas de progression. Que ça soit en mathématiques, chaque année on répète la même chose.
Donc elle doit se recentrer.
Sur un principe qui est l'instruction, la transmission des connaissances.
Voilà. Merci de nous avoir donné votre point de vue, Laurent Laforgue. Je reprécise que vous êtes académicien des sciences et que vous êtes professeur permanent à l'Institut des hautes études scientifiques. Merci aux éditeurs de nous avoir suivis. Retrouvez cette émission téléchargeable gratuitement. Encore merci Laurent Laforgue et peut-être à une prochaine fois. Au revoir.
Au revoir.